Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, comparaît depuis ce matin devant la justice pour non-dénonciation d'agression sexuelle par un prêtre de son diocèse, Bernard Prénat. La révélation de cette affaire il y a 3 ans a secoué l'Église de France, mais elle n'est que l'expression française d'affaires de pédophilie qui frappe l'Église dans le monde entier. Les États-Unis, le Chili, l'Allemagne, l'Australie, pour ne citer que les dossiers les plus documentés et les plus médiatisés ces derniers mois. Par la voix du pape François, aujourd'hui, l'Église s'engage à combattre l'un des crimes les plus vils. L'Église en fait-elle suffisamment contre la pédophilie? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Véronique Margron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologienne, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF. Et Antoine Rouget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart, ayant participé à l'émission Cache Investigation, Pédophilie, la loi du silence. Les plaignants, dans le procès qui s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon, dénoncent l'omerta de l'Église catholique à propos des crimes pédophiles en son sein. Existe-t-il ou existait-il au moins jusqu'à ces derniers mois, sinon une loi du silence, du moins une culture du silence sur ces questions au sein de l'Église? Véronique Margron.
Malheureusement, oui. Qui pourrait dire aujourd'hui le contraire devant toutes les révélations qui se sont succédées en cascade ces derniers temps, dont et évidemment dans, aussi avec l'affaire de Bernard Prénat. Donc malheureusement oui, pour de multiples raisons, à la fois des raisons conjoncturelles d'un silence qui était aussi celui de toute une société, mais aussi des raisons plus spécifiques à l'Église, se vivant comme une famille, et on sait ce qu'il en est de l'omerta dans les familles en cas d'inceste, donc on a des phénomènes assez semblables, plus une culture du secret interne liée à la confession. Donc on est face à une pluralité de facteurs qui ont aggravé sans doute même ce silence.
Antoine Rouget, donc je pense que vous partagez le constat de culture du silence. Est-ce qu'on peut parler de système organisé en revanche? Un système qui serait fait pour que les choses ne sortent pas et les gens ne s'expriment pas.
Je crois qu'il faut distinguer 2 choses. C'est effectivement d'abord la manière dont s'est diffusée cette culture du silence, parfois même à l'insu des pratiquants, et la manière dont tout ça a infusé culturellement au sein de l'Église et a maturé pendant des décennies, voire des siècles. Et en parallèle de ça, des cas plus spécifiques d'organisation ou d'exfiltration, voire de protection par certains responsables religieux de prêtres qui ont commis ou qui étaient suspectés d'avoir commis des agressions sexuelles. Je crois qu'il y a vraiment les deux combinaisons à avoir en tête pour bien comprendre ce qui s'est passé ces dernières années.
C'est très difficile de produire des statistiques sur la pédophilie, mais l'Église est-elle plus touchée que la moyenne des organisations qui s'occupent d'enfants, à votre connaissance, Véronique Margron?
À vrai dire, je pense qu'on est incapable de répondre aujourd'hui, d'autant que, bon, comme on n'a pas d'enquête suffisamment systématique, y compris déjà pour l'Église, en tout cas pour ce qui est de la France, et encore moins pour d'autres institutions comme le sport, comme l'école, je vois pas très bien comment on pourrait dire. Ce que je crains, malheureusement, c'est que ça ne soit pas moins. Mais je serais bien incapable de vous dire si c'est pareil ou pire, si c'est plus.
À votre connaissance, Antoine Rouget, il y a des statistiques là-dessus ou c'est
non, il y a absolument aucune statistique. Il y a pas de dossier, il y a pas eu de recherche proactive finalement des différentes institutions. C'est bien d'ailleurs le problème. Et nous, on compare pas avec d'autres secteurs de la société, d'autres segments. On dit simplement que à chaque fois que on révèle un cas de pédophilie nouveau, se signalent des dizaines de victimes qui s'étaient tues pendant des décennies, c'est vraiment frappant. On le voit à Mediapart. À chaque nouvelle enquête, il y a des dizaines de personnes qui viennent vers nous, qui disent j'ai un cousin qui m'a parlé de tel prêtre. Oui, j'ai entendu parler. Donc ça veut dire que le scandale est évidemment immense derrière ce qui est révélé aujourd'hui dans la presse.
Ça veut dire qu'il y a une libération de la parole. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, Véronique Margron, de ce sujet au sein de l'Église?
Écoutez, je veux croire que oui, quand même.
Quand je parle de l'Église, je parle évidemment de la hiérarchie et des croyants dans leur ensemble.
Alors les deux, à vrai dire, la hiérarchie, je crois, depuis, disons, le pape Benoît XVI, qui a été quand même tout à fait déterminant, et le premier pape à avoir des prises de position aussi fortes. Bon, le pape François a fait son propre chemin, et aujourd'hui, vu ce qu'il a déclaré aujourd'hui, on voit bien combien son propos est clair. Après, il faut que tout ça soit suivi des faits dans la réalité des églises locales, des églises des pays. Et c'est là où c'est compliqué, parce que l'Église, c'est pas l'armée, et donc il suffit pas que le chef en haut décide quelque chose pour que ça tombe en cascade. Donc ça rend les choses compliquées. Maintenant, je pense quand même que la prise de conscience, elle est faite. Ça ne veut pas dire que la vérité est faite. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Ça ne veut rien dire de tout cela. Je pense que c'est plutôt le début d'un long tunnel et il va falloir que toute l'Église, y compris les croyants, entre guillemets, de base, hein, qui eux aussi ont été pour un certain nombre bien longtemps aveugles aussi parce que ils étaient pris dans cette même culture, que ce long chemin dans ce tunnel soit parcouru.
Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Rouget? Il y a un début de prise de conscience. Est-ce qu'il faut aller plus loin ou est-ce qu'elle n'est pas suffisante?
Il y a vraiment un tout début. Moi, si je prends la hiérarchie de l'Église catholique, j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore mesuré exactement l'importance de la vague qui est en train de submerger le monde catholique. Et d'ailleurs, la libération de la parole, elle se fait pas par le haut. Elle se fait par la base, d'abord dans les familles. On voit que c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, on en parle, dans les repas de famille, la parole se libère comme ça. Il y a des lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui encore marginalisés par l'institution, c'est ça qui est absolument incroyable. Personne n'a été finalement totalement réhabilité. Le cardinal Barbarin, d'autres responsables religieux ont fait part de leur honte, c'est des mots suffisamment forts, mais dans les faits, finalement aujourd'hui, les victimes restent victimes, et même quand elles ont témoigné, on les a pas valorisées dans cet acte-là, et je pense que la hiérarchie de l'Église catholique est encore en retard là-dessus.
Quand vous parlez de la base qui s'exprime, ça se manifeste comment, Véronique Margromont? Il me semble avoir entendu effectivement des gens qui, à la sortie de la messe, interrogés par la presse, disaient « maintenant il y en a marre, quoi ». Ça arrive de plus en plus souvent.
Oui, heureusement. C'est-à-dire que je pense que il y a heureusement aujourd'hui une conscience partagée de l'ampleur du scandale et de la trahison que ça représente. Alors, évidemment, d'abord la trahison pour les enfants, pour leurs proches, pour les familles, mais la trahison pour toute la communauté chrétienne, bien sûr, puisque ces hommes ont célébré la messe, ces hommes ont baptisé les enfants, ont fait le catéchisme, et donc c'est un malheur pour tout le monde. Par-delà les victimes et leurs proches immédiats.
Oui, vous sentez, vous aussi, quand vous le disiez, hein, quand vous faites des enquêtes sur ces sujets-là, que les gens, maintenant, ils parlent, quoi.
Déjà, les gens se disent, ils sont plus seuls.
Oui.
C'est-à-dire, je ne suis pas la première à avoir été victime de ça, et je ne suis pas honteux, finalement, d'avoir été victime de cela. Et puis, il y a une écoute en face. C'est-à-dire aussi qu'on considère que ça s'est passé et ça a pu se passer. Pendant des années, pendant des décennies, y compris des évêques, ont considéré que tout ça était finalement secondaire, que révéler des actes de pédophilie ne comportait qu'un seul risque, c'était d'attaquer l'institution. Et aujourd'hui, il y a quand même une réflexion inverse. Et je pense là pouvoir dire que de la tête à la base, tout le monde considère que ça a existé et qu'il faut en parler.
Oui,
Véronique Margron, vous voulez rebondir là-dessus?
Oui, que non seulement il faut en parler, mais il faut agir, quoi. C'est-à-dire à la fois il faut agir pour comprendre ce qui s'est passé, pour faire la vérité, pour entendre les personnes victimes et se rendre compte un tout petit peu de l'ampleur du drame que ça représente pour leur vie, de comment ce crime est un crime très particulier dans l'existence, dans une existence, que ça n'est pas un drame comme un autre, parce que nous le savons bien, hein, chacun, la personne victime, elle est en état de sidération, donc sa douleur est continue, quoi. La douleur ne s'efface pas avec le temps, ce qui n'est pas le cas, heureusement, d'ailleurs, dans d'autres types de douleurs, dans d'autres types de malheurs de la vie. Donc, je pense que il a fallu, et peut-être en faut-il encore, bien malheureusement, du temps à l'Église pour entendre cela, pour entendre que, comme certains le disaient encore il n'y a pas si longtemps, non, ce ne sont pas de vieilles histoires. Parce que pour la personne qui l'a vécu, cette histoire, elle est...
Elle garde un écho aujourd'hui.
Oui, oui, complètement. C'est-à-dire, elle lui est contemporaine toujours, y compris quand ça s'est passé il y a 30 ans.
Le pape François lui-même, vous l'avez dit, il a évolué sur la question. Mmh. Il a hésité, hein, sur ces questions. Oui. Lors de son voyage au Chili l'an dernier, il a parlé d'abord de calomnie, quand on lui parlait des évêques qui étaient mis en cause pour avoir couvert ces actes-là. Et puis, il a fait volte-face en s'engageant publiquement, et aujourd'hui encore. Ça, c'est une bonne chose pour vous?
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Je pense qu'en fin de compte, le pape, il a été victime de ce qu'il dénonce dans la lettre qu'il a écrite cet été, qui s'appelle la lettre au peuple de Dieu, du cléricalisme. C'est-à-dire, il en a été lui-même victime par ses propres évêques. C'est-à-dire, il les a crus. Il n'a pas voulu écouter à ce moment-là l'opinion publique, en quelque sorte, la communauté chrétienne de base, si j'ose dire, hein, jusqu'au moment bah, où les preuves étant là, les faisceaux étant concordants, eh bien, heureusement, il a eu l'honnêteté, c'est pas si fréquent, donc je pense qu'il faut vraiment le reconnaître, de le dire et de le dire publiquement.
Le cléricalisme, c'est une forme de respect un petit peu trop prononcé, disons, pour la hiérarchie catholique. Ces prises de parole successives du pape, cette évolution du pape, est-ce que c'est quelque chose dont on vous parle, vous, quand vous faites vos enquêtes, Antoine Rouget?
Évidemment, les évolutions...
Ça met les gens en confiance
Même les positions de la conférence des évêques de France, qui est en train de poser les jalons, finalement, d'une opération vérité, après on pourra revenir sur le fond, est-ce que ça implique réellement, et les limites à cela, mais évidemment... il y a un environnement favorable aujourd'hui à ce que les victimes parlent. Rappelons-nous, il y a quelques années, c'était un acte extrêmement courageux. Aujourd'hui encore, et beaucoup de victimes hésitent à parler publiquement, et ça reste un acte très compliqué. Mais il y a quand même une ambiance qui favorise aujourd'hui une libération de la parole, et ça, c'est inéluctable.
Véronique Margron, est-ce qu'il y a une opposition, vous avez commencé à en parler, entre le pape François et l'Église en tant que hiérarchie et organisation? Est-ce que c'est le pape contre l'Église, quelque part?
Non, je ne crois pas. Mais par contre, je ne suis pas sûr.
Le pape contre la curie, le pape contre...
En tout cas, ils ne sont pas toujours tous avec lui. On peut au moins le dire comme ça. Après, moi, je suis pas une spécialiste, donc je ne saurais pas vous dire dans les arcanes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas tous avec lui. Mais peut-être aussi parce que tous n'ont pas... la même vérité, la même lucidité, peut-être la même honnêteté, tout simplement, la même intégrité que celle qu'il a eue. Et puis, il a, au cours de toutes ces années, hein, si on repense depuis l'Irlande, écouté beaucoup de victimes. Et quand vous écoutez des personnes victimes, enfin, ça vous bouleverse et ça vous change. Et je pense que des prélats qui, en fin de compte, n'en ont jamais rencontré, en tout cas n'ont jamais pris le temps d'en écouter pour de vrai, longuement, continuent à penser que tout ça, ça peut être encore du complot contre l'Église ou des choses comme ça.
C'est des choses que vous entendez, vous, quand vous essayez, que vous interrogez des ecclésiastiques, Antoine Rouget, que finalement, c'est du complot de journalistes.
Ah, tout à fait. Moi, j'ai travaillé spécifiquement on en parlait tout à l'heure, sur une communauté qui s'appelle la communauté des frères de Saint-Jean, qui est implantée partout dans le monde, mais qui a son siège en France, en Saône-et-Loire. Et la réaction de cette communauté à intervalles réguliers, quand nous publions des enquêtes, c'est de considérer finalement que ce sont des attaques venues de l'extérieur, de laïcs, pour attaquer une institution, en l'occurrence une communauté. Et il y a encore aujourd'hui personnes, des représentants religieux qui considèrent que ces affaires doivent être réglées en interne dans l'Église, et que nous sommes finalement illégitimes à porter un regard là-dessus et à enquêter là-dessus.
On a parlé de l'amélioration de la libération de la parole, de l'écoute. Que fait l'Église concrètement d'un point de vue de son organisation, Véronique Margron?
Alors déjà, ce qu'elle fait, en tout cas ce qui est impérieux et ce qui est impératif, après je ne sais pas si tout le monde...
J'allais employer le terme de management, mais c'est presque ça.
Oui, alors il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a un niveau qui concerne la formation des futurs prêtres, ou religieux, qui est un niveau qu'il faut vraiment beaucoup reprendre. Ça l'a déjà été fait, mais il faut recommencer. Enfin, on voit bien qu'on n'est pas au bout, là. Et cette formation est loin d'être unilatérale partout la même. Donc, il y a ce niveau-là. Il y a le niveau qu'on évoquait tout à l'heure de la gouvernance et du cléricalisme. Avec qui les évêques gouvernent-ils? Qui sont les laïcs qui les entourent? La place des femmes? Enfin, on voit bien que c'est une multitude de questions, d'où la gravité de la crise, mais aussi la difficulté de la réforme. C'est que c'est pas seulement une réponse, c'est une multitude de réponses à apporter, tant sur le plan institutionnel, que sur le plan de la formation, que bien sûr sur le plan de la justice interne de l'Église.
Oui, il faut organiser les structures, on va parler de la justice interne, il faut organiser les structures pour faire en sorte que ces affaires sortent et ne se reproduisent pas, Antoine Rouget.
Déjà, il faut une révolution culturelle, et il faut que l'épiscopat français considère enfin que la justice civile a son mot là-dedans, et que ces affaires-là ne doivent absolument pas être traitées en interne. C'est un point de départ qui devrait être évident, mais qui ne l'est pas. Nous, on a enquêté, on a trouvé quand même en France 27 évêques qui avaient eu des accusations d'agression sexuelle. C'est quand même dont 6 sont aujourd'hui encore en poste.
Il y a combien de diocèses en France, Véronique Margon?
Une centaine.
Donc ça fait un quart des diocèses concernés, quoi, grosso modo.
C'est ça, tout à fait. Et donc le point de départ devrait être déjà de considérer et d'accepter le fait que la justice civile des hommes soit au-dessus de la justice de Dieu, ou au moins travaille sur ces questions-là. Et je pense que en parallèle de la question de la vérité et de la nécessité de recueillir les témoignages et de faire ce travail-là, il y a deux questions qui sont fondamentales et qui ne sont aujourd'hui pas abordées ou pas résolues, qui sont la question de la réparation des victimes. Quid de la réparation des victimes? Que va faire l'Église face à ces centaines de victimes? Et la question de la non-répétition, c'est-à-dire quels mécanismes sont demain mis en place pour que un prédateur, s'il y en a un, ne puisse pas recommencer, et ainsi de suite pendant des décennies.
Véronique Margron, vous parliez tout à l'heure de justice interne, là on parle de justice civile. Comment est-ce qu'on peut organiser la dualité entre les deux?
La justice civile, elle est impérative. C'était déjà un texte.
C'est ce qui se passe aujourd'hui à Lyon.
C'était déjà un texte de Jean-Paul II demandant à l'époque, demandant que les évêques fassent des signalements et coopèrent avec la justice civile pleinement. Donc on voit bien le ce que vous dites, c'est-à-dire que malgré ce texte-là, pendant encore des années et des années, on a vu des évêques, et peut-être malheureusement il y en a-t-il encore, qui ne le font pas, c'est-à-dire qui ne coopèrent pas, qui ne signalent pas. Donc ça c'est impératif, parce que les évêques sont avant toute chose, les responsables religieux, des citoyens, et que personne n'échappe, heureusement, je l'espère bien, à cette catégorie. Après, l'Église, elle a un droit. Et ce droit, il est tout à fait important, le droit de l'Église, pour aussi qu'il y ait, que par là même on montre la gravité des faits, et que ces faits, on les regarde aussi de ce point de vue-là. Mais en aucun cas, la justice ecclésiastique peut cacher le rapport à la justice civile, ni s'y substituer, en aucun cas.
Alors, on parlait justement de droit canonique, et on peut évoquer le cas de Pierre Vignon, qui est un prêtre de la Drôme, qui a lancé une pétition pour la démission de Philippe Barbarin, et qui avait des juges des fonctions de juge de droit canonique dans le diocèse de Lyon. Il a été sanctionné. C'est quand même pas un très bon message, Antoine Rougier.
Ah non, c'est tout à fait révélateur. D'ailleurs, c'est un signal absolument contradictoire avec le discours porté par la Conférence des évêques de France. Comme je le disais tout à l'heure, les victimes et les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui encore marginalisés. Les associations de familles de victimes qui portent depuis des années ces combats-là sont aujourd'hui encore marginalisées au sein de l'Église. Et ça paraît hallucinant, mais c'est un état de fait.
Le message là de sanctionner, de retirer ses prérogatives de juge à Pierre Vignon, c'est pas une bonne nouvelle, Véronique Margron.
Non, on peut pas considérer que c'est une bonne nouvelle, surtout que on a le sentiment que ceci s'est fait sans beaucoup de dialogue, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que encore ça pourrait être aussi pour des raisons où tout le monde est d'accord entre eux, qui pourraient se comprendre, mais là ça n'est pas de cet ordre-là. Donc je pense que c'est particulièrement dommageable. Bon, on peut pas dire moins, je peux pas en dire plus pour ne pas connaître après de l'intérieur cette situation. Mais ce que je crois très important, en fonction de ce que vous disiez, en particulier sur les associations de victimes, c'est il y a des pays, par exemple l'Allemagne, où depuis des années la Conférence des évêques allemands travaille, mais main dans la main, avec les associations de victimes. Donc on voit bien que là c'est aussi toute une culture qui n'est pas la nôtre dans l'Église de France, mais qui n'est sans doute pas la nôtre peut-être dans d'autres institutions. Et c'est là tout un travail à faire, de se dire mais ces femmes et ces hommes qui ont été si meurtris veulent en même temps, pour beaucoup d'entre eux, être de ceux qui facilitent demain la réforme de l'Église.
Merci Véronique Margron, merci à vous Antoine Rougier d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, si ce n'est pas trop désagréable aujourd'hui, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.